Place Info.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
1,5 milliard d'euros sur 3 ans, des primes pour des centaines de milliers de personnels de l'hôpital, une reprise partielle de la dette. On va revenir sur tous ces sujets, mais dès l'annonce quasiment de votre plan, hier, plusieurs collectifs ont déjà annoncé de nouvelles mobilisations dans la rue. Malgré ce plan, est-ce que pour vous, ce mouvement à l'hôpital doit s'arrêter ?
Alors, moi, je pense que les hospitaliers, ils attendent du concret. Et il faut que ce plan arrive à se décliner très rapidement dans les hôpitaux pour que les hospitaliers se rendent compte des possibilités qu'on leur offre, notamment en termes d'investissement. C'est un plan massif, c'est un plan historique pour l'hôpital. C'est la première fois qu'on propose de soulager les hôpitaux de cette dette immense qui a été accumulée parce que on leur a mis la tête sous l'eau avec des budgets trop faibles par rapport à leurs besoins et par rapport aux dettes qu'ils avaient pour construire de nouveaux hôpitaux, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on dit aux hôpitaux, l'effort qui vous a été demandé est immense, il était trop grand depuis 20 ans, et l'État reprend 30% de cette dette accumulée, 10 milliards d'euros sur 3 ans.
Avec des effets qui pourront se faire sentir quand, sur ce point-là précis de la dette ?
Sur ce point-là, en 2020, dès 2020, il faut une loi pour le faire voter, donc ce sera au premier trimestre 2020, mais dès 2020, il faudra que les hôpitaux retrouvent de la trésorerie, ça va leur permettre de réinvestir, ça va leur permettre de recruter éventuellement du personnel, ça va leur permettre de réouvrir des lits s'il y a besoin d'ouvrir des lits, ça va leur permettre de rénover des ailes, d'acheter du matériel pour les professionnels. Nous mettons sur la table, en plus de cette reprise de dette, 1,5 milliard d'argent frais.
Sur trois ans.
Qui va permettre d'abord d'augmenter les tarifs, c'est-à-dire le budget de l'hôpital. Les tarifs, c'est ce que l'hôpital facture à l'assurance maladie pour son activité. Et donc, l'assurance maladie va donc mieux payer les hôpitaux. Et nous allons également, dans ces 1,5 milliard sur 3 ans, proposer des centaines de millions dédiés à des primes pour les personnels, des primes pour leur engagement, des primes liées à des situations particulières, quand par exemple un professionnel travaille sur plusieurs sites, on sait que c'est compliqué, que c'est difficile, ou alors quand certains viennent de très loin parce qu'ils travaillent à Paris ou la Petite Couronne, ou lorsqu'il y a un engagement par exemple dans des coopérations entre professionnels. Donc il y a des primes d'engagement, des primes de situation particulière et des primes collectives quand un service se réorganise, par exemple.
Renaud Dely.
On va les détailler dans un instant, ces mesures, mais pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps, Agnès Buzyn ? Le mouvement à l'hôpital dure depuis des mois. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour que le gouvernement réagisse de la sorte ?
Alors, en réalité, depuis mon arrivée, je travaille à sauver l'hôpital public. Parce que quand je suis arrivée, l'hôpital public avait 1 milliard de déficit en 2017, 1 milliard, ce qui prouve bien que les tarifs étaient insuffisants. Il avait subi une baisse des contraintes depuis 20 ans, beaucoup de réformes qui l'ont beaucoup déstabilisé, des réformes de gouvernance, des réformes de tarification. Et donc j'ai fait un plan pour soulager l'hôpital qui visait à mieux organiser la médecine de ville, la médecine libérale. Parce qu'en réalité, pourquoi l'hôpital souffre ? Il souffre aussi parce qu'il est le réceptacle des dysfonctionnements du système de santé.
Mais ce mouvement est dur depuis des mois, Agnès Buzyn. Vous aviez déjà d'ailleurs annoncé des mesures il y a quelques mois qui n'avaient pas été suffisantes pour éteindre la colère des personnels. Pourquoi est-ce que le gouvernement a eu un temps de retard comme ça ? Et est-ce que ce plan-là, celui-ci, va effectivement, selon vous, arrêter ce mouvement ?
Donc, il y a eu un projet de loi voté avec un plan qui s'appelle Ma Santé 2022 qui vise à réorganiser la totalité du système de santé. Là-dedans, il y a eu les difficultés des urgences qui sont apparues comme trop importantes pour attendre la réorganisation de la médecine de ville. Et donc, nous avons rajouté cet été des mesures spécifiques pour soulager les services d'urgence. Et là, aujourd'hui, l'hôpital nous dit, nous ne pourrons pas tenir, ils ne contestent pas le cap, ils ne contestent pas le plan Ma Santé 2022, ils veulent que ça s'accélère, que ça aille plus vite, que les réorganisations et que les résultats se fassent sentir. Et donc, cette accélération, eh bien, nous la traduisons dans un budget qui va permettre aux hôpitaux d'attendre les 2 ou 3 ans nécessaires pour que la totalité de la réforme se mette en œuvre et réussisse à sauver quelque part notre trésor national qui est l'hôpital public et auquel nous sommes extrêmement attachés.
Vous avez affronté Bercy dans ce dossier ?
Comme tous les ministres qui défendent un budget, ni plus ni moins. C'est un plan gouvernemental, je le défends parce que c'est mon secteur, mais je dirais que chaque ministre a à défendre un budget et à argumenter. Et Bercy me donne les moyens aujourd'hui
mais ne vous les a pas donnés dans les deux plans précédents.
C'est faux.
Il y avait beaucoup de redistribution de crédit.
Le premier plan Ma Santé 2022 comportait déjà pour 1,6 milliard d'euros d'argent frais pour accompagner la transformation du système. Pour les urgences, nous avons mis 750 millions d'euros et nous rajoutons aujourd'hui non seulement 1,5 milliard, mais surtout, et je pense que c'est ça le grand message, la reprise de la dette. 10 milliards d'euros de dette en moins pour les hôpitaux, ils vont souffler, ils vont pouvoir réinvestir. Et ils vont sortir la tête de l'eau. Ça n'a jamais été fait, jamais.
Et pour les personnels, Agnès Buzyn, il y a donc des syndicats, des collectifs de personnels hospitaliers qui réclamaient des augmentations de salaire. Vous avez annoncé des primes, mais pas d'augmentation de salaire général, ce qui explique l'accueil plutôt frais de vos propositions par un certain nombre de responsables. Je propose d'écouter Christian Prudhomme, qui est le secrétaire général de Force Ouvrière Santé.
Nous, ce qu'on demande, c'est simple, et on n'en a pas du tout entendu parler ce matin lors des annonces, c'est des lits et c'est du recrutement de personnel et augmenter l'attractivité qui repassera par une vraie revalorisation salariale. Les primes, elles vont diviser les professionnels, c'est pas une vraie revalorisation salariale, elles concerneront que Paris et la région parisienne.
C'est faux.
Il y a une prime annuelle, en l'occurrence, il fait allusion à une prime de 800 euros annuelle qui concerne là uniquement des personnels qui travaillent à Paris et dans la petite couronne. Pourquoi ne pas avoir nationalisé cette prime ?
Alors, il y a plusieurs centaines de millions dédiés à l'attractivité des carrières hospitalières. Plusieurs centaines de millions d'euros. Là-dedans, il y a quelques dizaines de millions d'euros dédiés à Paris et sa petite couronne en raison des suggestions particulières de ces personnels qui souvent font 2-3 heures de trajet parce qu'ils ne peuvent pas se loger à Paris. Et donc, nous, quelque part, nous les aidons à vivre.
C'est le cas dans d'autres grandes villes.
Non,
jamais. Aujourd'hui, les prix du logement à Nice, à Lyon.
Non, vous n'avez aucune grande ville où les gens font 2 heures pour venir travailler. Le problème de Paris, c'est que les gens parfois habitent à Chartres, ils habitent à Valenciennes, ils habitent extrêmement loin.
Parce que le logement les a poussés,
mais parce que nous n'avons pas été aidés sur le plan du logement pour pouvoir loger les personnels. Mais Paris, ça n'est absolument pas la totalité des primes. Il y a des primes pour tout le monde. Il n'y a pas de professionnel de santé et de soignant qui ne pourra pas accéder à une prime avec ce que nous avons mis sur la table. Il y a des primes pour les aides-soignants.
Quelle est la proportion des personnels qui va toucher une prime ?
Ça peut aller jusqu'à 600 000 personnes, voire plus. Donc je rappelle que la fonction publique hospitalière, c'est 1 200 000 personnes. Donc il y a beaucoup de personnel administratif. Donc ceux-là peuvent être touchés par des primes collectives dans des réorganisations de services. Ça pourrait toucher par exemple des secrétaires hospitalières. Mais il y a par exemple une prime pour les aides-soignants qui travaillent en gériatrie. Ça touche 60 000 personnes. Il y a des primes pour récompenser un engagement particulier. C'est 600 000 personnes.
D'un mot, prime pérenne,
réalité,
ou c'est juste cette année ?
Tout le monde va pouvoir, dans tous les territoires, accéder à une revalorisation qui récompense un engagement particulier ou une situation particulière.
On est en retard, pardon, mais je vous repose la question. Prime pérenne ou c'est juste pour cette année ?
Ah non, des primes
sur
pérennes.
Surtout le quinquennat.
Bien sûr.
Les 800 euros, ce sera cette année, l'an prochain et 2022
aussi. Bien sûr, ce sont des primes mensuelles, sauf la prime parisienne qui est annuelle, mais ce sont des primes pérennes.
Merci Agnès Buzyn, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce plan santé dans un instant, ce plan pour l'hôpital. D'abord à 8h41, Mélanie Delaunay pour le rappel de l'actualité.
La cloche va retentir dans 20 minutes à la Bourse de Paris pour marquer le début de cotation de l'action française des Jeux. 500 000 particuliers ont participé à la souscription et c'est le jackpot pour l'État, 2 milliards d'euros. Dans 2 semaines, jour pour jour, la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Les syndicats de la SNCF et de la RATP reçus ce matin par le haut commissaire aux retraites, mais la CGT Cheminots et Sudrail ne seront pas autour de la table. C'est le cri de colère et l'appel au secours d'une profession soumise à une concurrence déloyale. Sur France Info, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, solidaire des hôteliers, ils suspendent leur participation à l'organisation des JO 2024 pour protester contre le partenariat entre Airbnb et le CIO. S'inscrire dans une formation professionnelle en quelques clics sur votre téléphone, c'est ce que promet le gouvernement avec une application disponible à partir d'aujourd'hui. Les syndicats craignent que les salariés et les chômeurs utilisent leur compte pour des formations qui ne leur sont pas forcément utiles.
France Info. Et tout est plus clair.
Agnès Buzyn, l'an dernier, 4600 lits d'hôpital ont encore fermé en France. Est-ce que c'est terminé désormais et est-ce qu'il y aura des ouvertures ? On n'a pas compris les annonces du gouvernement sur ce point hier.
Non, parce qu'il n'y a pas d'uniformité. En réalité, il y a...
Il y a un chiffre global pour toute la France, d'ouverture ou de fermeture
chiffre,
de lits.
Mais on met, alors c'est hypothétique, mais on met en regard aussi les lits d'hôpitaux de jour que l'on rouvre. En fait, il y a un changement dans les pratiques qui font que beaucoup d'actes chirurgicaux ne nécessitent plus d'hospitalisation des nuits entières à l'hôpital, mais se font en ambulatoire. Et donc, les lits d'ambulatoire, en fait, quand vous ouvrez un lit d'ambulatoire, ça correspond à 5 lits fermés, puisque ça prend 5 malades en charge pendant une semaine, alors qu'un lit d'hôpital est en moyenne occupé 3 à 4 jours. Et donc, on met en regard, chiffre pour chiffre, à égalité des lits d'ambulatoire qui en réalité accueillent beaucoup plus de patients et des lits d'hospitalisation pérennes. Donc les lits, il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. À l'hôpital Saint-Antoine, ces dernières années, on a ouvert 100 lits nouveaux.
Et le solde sur toute la France.
Mais les soldes, nous ne comptons pas comme ça. Parce que il y a des endroits où il faut ouvrir des lits. Vous avez des villes en pleine expansion. Je pense à Montpellier, par exemple. Vous êtes obligé de construire. Vous êtes obligé d'accueillir plus de malades. Vous avez, au contraire, des hôpitaux où la population diminue parce que ce sont des villes parfois rurales, avec beaucoup moins de jeunes, beaucoup moins de naissances. Et donc, vous fermez des lits parce qu'il n'y a plus d'activité. Et donc, là, le plan qui est mis en place, permet aux hôpitaux qui en ont besoin de recruter du personnel et d'ouvrir des lits. Et donc, évidemment, il y a la possibilité pour tous les sites qui en ont besoin, et j'ai demandé d'ailleurs à tous les hôpitaux de me faire remonter leurs besoins au 1er décembre prochain, parce que je veux savoir dans quels hôpitaux il y a des tensions aux urgences faute de lits. Donc, je vais avoir des chiffres, mais ces chiffres vont nous permettre évidemment de nous adapter, d'ouvrir des lits quand c'est nécessaire, mais parfois il faut en fermer. Il faut oser dire que de temps en temps, nous n'avons pas besoin de lits quand une activité se transforme.
Renaud Dely.
Il y a une autre échéance sur le calendrier social qui s'annonce prochainement, c'est l'échéance du 5 décembre pour laquelle il y a une journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Est-ce que vous redoutez cette mobilisation du 5 décembre? Est-ce que c'est pour vous, selon l'expression qu'on a entendue du côté du pouvoir, un mur qui se dessine à l'horizon du gouvernement le 5 décembre prochain?
Non, ça sera une mobilisation importante, nous le savons. Nous savons que ce sera une mobilisation importante puisque beaucoup de syndicats appellent à la grève.
Dont vous tiendrez compte?
Pardon?
Dont vous tiendrez compte?
Nous verrons. En tous les cas, aujourd'hui, nous discutons avec ces syndicats. Nous allons déposer une réforme des retraites qui va être rendue publique dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et ce que je veux dire, c'est que les Français doivent quand même réaliser que ce sont aujourd'hui des syndicats qui défendent des régimes spéciaux extrêmement déficitaires, qui sont payés par nos impôts. Et donc, ce sont des revendications très corporatistes. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la réforme et qui juste ne veulent pas d'une réforme parce qu'ils ne veulent pas la disparition d'un régime extrêmement avantageux.
Vous pensez que les cheminots ne connaissent pas la réforme?
Non, ils ne veulent même pas d'une réforme par point. Ils ne veulent pas de réforme qui vise à l'universalité, c'est-à-dire au fait que tous les Français soient traités pareil. Or, nous pensons, dans un projet de société et dans une France qui aime l'égalité, nous pensons que tous les Français doivent être traités pareil face à la retraite, même s'il y a des métiers pénibles et des carrières longues qu'il faut reconnaître, mais que l'esprit, c'est que nous ayons un seul système de retraite unique pour chacun d'entre nous. Et là, avant même d'avoir un texte de loi, ces régimes spéciaux font grève parce qu'ils veulent garder, évidemment, leurs avantages acquis.
Pour vous, Agnès Buzyn, à la SNCF ou à la RATP, par exemple, ce sont donc des revendications corporatistes, vous dites, qui s'opposent à l'intérêt général?
Ce que nous expliquons dans la réforme, c'est que tous ceux qui ont acquis des droits jusqu'à la date de mise en œuvre de la réforme, voire un peu plus, puisque nous proposons des périodes de transition assez longues à partir du moment où la réforme sera mise en place, tous ceux qui ont acquis des droits et qui sont rentrés dans un système auront leurs droits totalement préservés. Je rappelle que cette réforme ne touche absolument pas les retraités actuels, elle ne touche pas les gens qui sont à moins de 5 ans de la retraite. Et pour beaucoup
pour le reste, on ne sait pas grand-chose.
Et pour le reste,
on ne sait pas grand-chose.
Pour les jeunes, on dit simplement que les jeunes qui rentrent dans la vie active aujourd'hui, qui vont avoir des parcours beaucoup plus diversifiés, qui ne vont pas avoir de statut pérenne toute leur vie, il faut leur assurer un système de retraite qui leur garantisse une retraite correcte. Aujourd'hui, nous avons un système de retraite qui valorise les statuts acquis. Et donc, nous essayons de changer un système pour faire en sorte que tous les Français accèdent aux mêmes droits. Je pense que c'est un beau projet pour une société qui vise l'égalité des droits. Et donc, nous pensons que cette réforme, elle a un intérêt pour notre jeunesse.
Vous dites donc, Agnès Buzyn, que cette réforme des retraites, elle ne s'appliquera qu'aux futurs entrants sur le marché du travail?
Non, nous allons décider de la génération à laquelle elle va s'appliquer, puisque il était prévu dans le rapport de Jean-Paul Delevoye que ce soit la génération des personnes nées après 1963. Ça peut être décalé dans le temps, et c'est cela qui est en train d'être discuté.
Mais pourquoi c'est si compliqué de décider ça, visiblement? Le gouvernement hésite, il y a une inquiétude quand même. Est-ce que cette incertitude, justement, elle n'entretient pas l'angoisse d'un ensemble de Français?
Je pense qu'il est très urgent que la réforme et que le projet soient rendus publics et connus. Donc, nous sommes en train de travailler. Jean-Paul Delevoye a encore concerté.
Faut avancer maintenant.
Il y a une concertation publique, vous le savez, avec des concertations avec des citoyens en région. Nous attendons tous ces retours pour proposer un texte. Et je pense qu'il faudra sortir rapidement un texte sur lequel les gens pourront s'appuyer et donner un avis. Là, aujourd'hui, nous avons une grève le 5 décembre qui simplement nous dit une seule chose, on ne veut d'aucune réforme. Ils ne disent pas, on n'est pas d'accord avec votre réforme. Ils disent, nous n'en voulons aucune.
Rapidement.
Or, une société doit évoluer.
C'est quelle échéance? Rapidement, c'est avant Noël, Agnès Buzyn?
Le Premier ministre va recevoir le rapport du comité d'orientation des retraites ce matin. Je pense qu'il fera des annonces à l'issue de cette réception et il donnera probablement un échéancier avec des dates.
Question, Agnès Buzyn, est-ce que vous avez des gens autour de vous qui vapotent?
Non.
Non, bravo, je crois que vous avez fait. Vous
avez acheté votre équipe. J'ai dû réussir à les convaincre d'arrêter de fumer complètement.
Ouais. L'Inde vient d'interdire le vapotage. Plusieurs pays s'interrogent après des décès. Vous diriez quoi aujourd'hui à des gens qui fument la cigarette électronique?
Alors, d'abord, la cigarette électronique est nettement moins nocive que le tabac. Donc, il faut arrêter de fumer. Trouver le moyen.
Si on n'arrête pas et si on reste à la cigarette électronique, on la pose ou on la pose pas?
Alors, et la cigarette électronique n'a pas de danger de court terme. Les décès aujourd'hui qu'il y a eu aux États-Unis ou en Belgique récemment sont liés à des utilisateurs qui font leur propre mélange en mettant des produits à base de cannabis, à base de vitamine E, je crois. Et bref, ce sont des mélanges qui aujourd'hui ne sont pas accessibles en France. En France, si on achète un produit sur le marché, il n'y a pas ce danger mortel qu'on a vu aux États-Unis. Donc je dis que bien sûr, ça peut être un outil pour arrêter de fumer. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et je dis que après, si on peut arrêter complètement le vapotage, c'est encore mieux parce que on ne connaît pas la toxicité sur le long terme de produits qui sont quand même des produits qu'on inhale. Et donc voilà, ça peut être un moment temporaire dans la vie qui permet d'arrêter de fumer. Donc nous ne l'interdisons
voilà,
pas.
Voilà, on ne lâche pas la cigarette électronique pour ceux qui y sont évidemment. Merci Agnès Buzyn. Vous restez encore quelques instants avec nous si vous voulez bien. On parlera du mois sans alcool, si vous voulez bien, juste après les titres à 9h10 avec Mélanie Delaunay.
Une affaire criminelle hors norme devant les assises de la Somme à partir d'aujourd'hui, 17 ans après le meurtre d'Élodie Kulik. Willy Bardon, jugé à partir d'aujourd'hui, sa voix a été identifiée sur l'appel au secours de la jeune femme aux pompiers. L'autre suspect est mort dans un accident de la route. Je ne suis pas immédiatement très favorable à bouger l'âge légal, le Premier ministre Édouard Philippe, ce matin sur France Inter, à 2 semaines de la grève contre la réforme des retraites. Il dit aussi qu'il faut dire aux Français clairement, tranquillement, que nous allons travailler plus longtemps. Emmanuel Macron, dans sa ville natale, Amiens, pour combattre l'image d'un président déconnecté, rencontre avec les étudiants cet après-midi et demain avec d'anciens salariés de Whirlpool. On envoie des fusées sur la Lune, mais au bout de 6 jours, on n'est pas capable de remettre l'électricité dans nos villes et nos villages. La maire de Portes-les-Valences écrit au président de la République. 3500 foyers toujours sans courant dans la Drôme et l'Ardèche, une semaine après les chutes de neige.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le mois sans alcool devait être organisé pour la première fois en France au mois de janvier. Je dis devait, car plusieurs associations affirment qu'Emmanuel Macron a renoncé à le faire. Est-ce que c'est exact?
Non, c'est très différent. Là, on peut réécrire l'histoire, mais l'Agence de Santé publique, Santé publique France, travaille sur un certain nombre de mesures pour limiter la consommation d'alcool, dont une mesure qui est ce mois sans alcool, qui est proposée par des associations dans un certain nombre de pays. La campagne est en train d'être travaillée. Cette mesure n'a pas encore été validée par le ministère de la Santé. Elle ne m'avait pas été proposée. Et moi, je suis avec Santé publique France la totalité de leur plan de prévention. La nouvelle directrice générale, Pardon, la nouvelle directrice générale vient d'être nommée. Elle a été nommée il y a moins d'un mois. Et donc, en réalité, les équipes de Santé publique France ont travaillé sur des campagnes qui ne sont pas encore abouties et sur lesquelles je dois prendre position, mais ça n'est pas forcément ce format-là qui sera retenu.
Donc la décision n'est pas encore prise.
Non, la décision, en tous les cas, ce format-là de campagne n'est pas aujourd'hui validé par mon ministère. Et je voudrais voir la totalité, en réalité, des actions de lutte contre l'alcoolisme pour faire un plan. Nous avons un comité interministériel dédié à la prévention en santé en février, et c'est à ce moment-là que les programmes de prévention sont validés par le gouvernement.
Dans un monde idéal, Agnès Buzyn, vous seriez pour l'interdiction totale de l'alcool au volant, comme l'a dit votre collègue Didier Guillaume, avant de se faire recadrer?
En réalité...
Dans un monde idéal...
Non, en réalité, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'alcool au volant qui tue aujourd'hui, ce sont des taux d'alcoolémie plus élevés. C'est rarement des taux d'alcoolémie...
Au-dessus du seuil légal de 0,5.
C'est au-dessus du seuil légal. Donc le seuil légal correspond en réalité à une zone où le risque est très très faible. Le fait de ne pas boire du tout peut être un message qui est mieux compris parfois que de boire un verre ou deux. Et c'est en cela que certains prônent l'arrêt total de l'alcool au volant, ou d'autres considèrent que le seuil en fait est correct. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'il ne faut pas boire au-delà d'un verre pour prendre le volant, ou au-delà de deux verres pour les hommes, c'est pas tout à fait pareil pour les femmes et pour les hommes. Et le message de zéro alcool est parfois mieux compris. Mais en réalité, la zone de risque au volant, elle est au-dessus de 0,5 g par litre, c'est là où on perd ses réflexes.
Selon une enquête, Agnès Buzyn, publiée par UFC Que Choisir aujourd'hui, elle révèle un vrai problème auquel sortent de nombreux Français, près d'un Français sur deux, 44% exactement dans cette enquête, n'arrive pas à trouver un médecin traitant, un médecin généraliste, se heurte à un refus de la part de ces médecins de prendre de nouveaux patients, soit parce qu'ils disent qu'ils ont trop de patients, soit parce qu'ils sont trop près de la retraite. Lors des débats sur votre loi santé, il y avait eu un amendement présenté visant à imposer un droit opposable pour que les patients puissent avoir accès obligatoirement à un médecin traitant. Est-ce qu'il faut remettre ce sujet sur la table au vu du nombre de Français qui ne réussissent pas à avoir un médecin traitant?
Nous avons choisi une autre méthode, puisque dans la loi santé, nous avons mis en place ce qu'on appelle les communautés professionnelles de territoire. Donc ce sont tous les professionnels de santé d'un bassin de vie, tous les médecins, qui s'engagent collectivement à trouver un médecin traitant pour les Français. C'est mieux qu'un droit opposable, parce que le droit opposable, quand il n'y a personne, en réalité, il est opposable à qui? Donc on sait bien que ce sont des droits formels. Nous préférons mettre en place une organisation qui assure aux Français de trouver un médecin traitant autour de chez lui.
C'est pas le cas aujourd'hui encore dans toutes les régions.
Non, mais ça commence. La loi santé a été votée en juillet. Cette nouvelle obligation d'organisation territoriale, elle date du mois de juillet, c'est-à-dire d'il y a 3 mois. Les communautés sont en train de se former. Il y en a eu 200 dans la dernière année qui se sont formées. Ce sont des communautés qui prennent en charge 50 000 patients, 100 000 personnes. Et donc, il faut le temps qu'elles s'organisent sur le territoire.
Merci à vous, Agnès Buzyn. Nous étions engagés à vous libérer avec quelques minutes d'avance sur l'horaire normal parce que vous avez d'autres obligations. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous expliquer en détail, j'espère en tout cas, le plan sur l'hôpital. Solène Lehen, spécialiste santé de France Info, nous rejoint à l'instant. Solène, on va voir avec vous, non pas le détail de ce plan, mais maintenant les réactions à l'hôpital. On a entendu et vu sur France Info, Canal 27 et France Info Radio depuis ce matin plusieurs réactions. Celles des directeurs d'hôpitaux qui semblent plutôt favorables aux mesures annoncées et répétées ce matin par la ministre. Quelles sont les autres réactions dans les autres services de l'hôpital?
Eh bien, réaction surtout des manifestants, ceux qui ont manifesté en nombre la semaine dernière. Il y avait un peu tous les corps de métier. Il y avait les aides-soignants, il y avait les infirmiers. Il y avait également beaucoup de médecins, et c'est assez rare, il faut le souligner, beaucoup de médecins dans le cortège. Eh bien, aujourd'hui, pour eux, grosse déception parmi ces manifestants. Les différents collectifs réclamaient 300 euros de plus de salaire par mois et par personnel. Finalement, pas de revalorisation, pas d'augmentation générale, mais des primes dont a parlé la ministre ce matin. Elle a dit que plusieurs centaines de millions d'euros sont dédiés justement à l'attractivité des carrières.
Et que ces primes seront pérennes.
Voilà, qu'elles seront pérennes, mais des primes jugées par les manifestants ce matin insuffisantes.
Est-ce que ça signifie, Solène, que la mobilisation va reprendre ou continuer?
Alors évidemment, faut pas négliger la possibilité de scission. La belle union dans les rues de Paris, les rues de France la semaine dernière va peut-être se fissurer. Il y a des personnels parisiens qui vont peut-être se dire que cette prime, bah, finalement, c'est bon à prendre et puis qu'on va arrêter le mouvement. Il y a aussi des médecins qui avaient manifesté en nombre, on l'a dit, et qui peuvent aussi se dire qu'ils ont obtenu gain de cause pour une de leurs vieilles revendications. Ils vont pouvoir devenir directeurs d'hôpitaux, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé hier. Et ça fait des années, justement, qu'ils comptent testait le fait que l'hôpital était dirigé, je cite, par des gestionnaires. Donc toujours est-il que les organisations syndicales classiques, traditionnelles, appellent, elles, à amplifier le mouvement, la mobilisation, également les collectifs interurgences, interhôpitaux, qui se veulent hors syndicat, apolitique. Ils appellent, eux aussi, à une nouvelle journée d'action.
Oui, plusieurs dates hein, déjà pour ces journées d'action, soit en fin de semaine prochaine, le 30 novembre, soit une jonction avec le mouvement contre la réforme des retraites du 5 décembre prochain. Merci beaucoup, Solène Lehen. Merci à vous de votre fidélité à France Info. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.